بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدنا علما يا كريم ربي زدنا علما يا كريم ربي زدنا علما يا كريم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Donc inshallah on va compléter ce soir le chapitre concernant la personne qui a le cœur attaché aux mosquées. On avait vu depuis quelques mardis que parmi les personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, le jour des comptes, il y aura donc sept catégories de personnes. Et parmi ces catégories de personnes, on avait vu le imam adil, le dirigeant juste. On avait vu la personne qui a le cœur rattaché au masajid. Et avant ça, on avait vu bien sûr un jeune qui a grandi dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le sujet sur lequel on s'était le plus attardé, c'était Sha'abun Nasha'a fi ta'atillah, un jeune qui a grandi dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on voit que tout ce que le prophète alayhi salatu wa salam nous a rapporté, toutes ces paroles restent des discours d'actualité. Il n'y a pas quelque chose que le prophète a dit à une époque que ça reste un discours archaïque, hein, valable il y a 1500 années, mais à notre époque il n'y a plus lieu de parler de ça, la wallah. Ce que le prophète alayhi salatu wa salam nous a expliqué, ça restera toujours d'actualité. Autant lorsqu'il faisait targhib, il incitait les jeunes à rester dans les masajid, à fréquenter la maison d'Allah, à rester ferme dans les actes d'adoration, à rester éloigné du haram, c'était un discours d'actualité. Et plus les années passent, plus les générations passent, ça restera toujours un discours nécessaire pour toute personne à toutes les époques. Et ça, ça fait partie des jawami' al-kalim, hein, de la magie, entre guillemets, qu'il y a dans les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on avait expliqué qu'un jeune qui grandit dans l'obéissance d'Allah, ça ne veut pas forcément dire un jeune qui reste dans la masjid, qui n'aura aucun avenir professionnel, hein, qui va rester dans la masjid du matin jusqu'au soir, de l'âge de 15 ans jusqu'à 85 ans. Là, wallah. C'est quelqu'un qui va connaître, hein, alhamdoulilah, inshallah, une vie professionnelle, une vie familiale, un épanouissement tout à fait normal, mais sa vie ne, et ses shahawats, ses pulsions, ses désirs, hein, ces nécessités qu'il y a quand on est jeune, ne seront pas un obstacle pour obéir à Allah. Et ces pulsions ne lui mèneront pas vers la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand le prophète alayhi salatu wa salam rapporte que l'ange Jibril alayhi salam en personne avait visité le Jahannam, il avait vu l'enfer, et lorsqu'il a vu l'enfer, il a dit immédiatement que je pense, en ce sens que jamais une personne, un être humain, hein, il parle d'un être humain, parce que l'ange, il connaît quelles sont les qualités des malaïka, et il sait également quelles sont les qualités, mais les défauts des insan, des êtres humains. Et il s'est dit que jamais un être humain ne pourra entrer dans le paradis. Parce qu'il y a tellement de bonnes actions à faire, et que vu la nature humaine, il pense, ça c'était l'analyse de l'ange Jibril, il craint que peu de gens puissent faire les bonnes actions. Et lorsqu'il a vu ce qui entoure l'enfer, ça veut dire quoi? Ce qui entoure l'enfer, les choses qui mènent vers le Jahannam, tout ce qui appelle vers le feu de l'enfer. Lorsqu'il a vu ça, il s'est dit que je crains qu'aucun être humain, aucun des fils de Adam alayhi salam, ne puisse en échapper. Parce que tout ce qui appelle vers l'enfer, ce sont des choses qui sont chères à l'être humain. Les plaisirs de la chair, les plaisirs, hein, la boisson, tout ce qui rend la personne, on va dire, heureux, tout ce qui apporte un plaisir, un ladha. Il ressent une sensation d'élévation, ce n'est pas spirituel, mais un plaisir. Tout ce qui amène vers les plaisirs, ben, ce sont ces choses-là qui mènent vers le Jahannam. Donc, il a eu cette crainte que peut-être qu'aucun être humain ne pourra échapper au Jahannam, vu la nature de l'être humain. Et j'allais dire que les anges ne comprennent pas, na, wallah. Dire que les anges, pour eux, ils ont été créés de lumière. Ils ne savent pas c'est quoi désobéir à Allah. Ils ne comprennent pas comment quelqu'un peut désobéir à Allah. Ils n'arrivent pas à comprendre comment quelqu'un peut désobéir à Allah. Il faut dire aussi que les malaïka, ils voient Allah. Ils sont autour du trône d'Allah. Ils voient la grandeur d'Allah. Ils tremblent. Quand Allah ordonne quelque chose, tous les anges de tous les cieux tremblent. Et ils se transmettent qu'est-ce que Allah a décidé. Quel est le décret d'Allah pour telle période. D'accord? Et donc, quand eux, ils voient Allah, ils connaissent la grandeur d'Allah, ils se disent, et on avait vu d'autres hadiths, hein, dans le même chapitre ou un chapitre avant, que Allah Ta'ala crée des malaïka, qui depuis la création, depuis que Allah s'est établi sur le trône, jusqu'à le Qiyama, cet ange est en position de sijda, de prosternation. Et quand on soufflera dans la trompe, fissour, cet ange relèvera son, il se relèvera, j'allais dire relever son front, mais Allah seul sait comment sont les anges, il se relèvera et il dira « Subhanaka ma abidnaka haqqa ibadatik, oh Allah, toute pureté, louange te reviennent, certainement on n'a pas fait ton adoration comme tu le méritais. » Ça c'est les muqarrabis, les anges qui sont proches d'Allah. Ils passent leur vie dans l'adoration d'Allah. Dernièrement, dans le chapitre sur Gog et Magog, on avait expliqué qu'Allah Azza wa Jal avait divisé la création en 10 parties. Et dans ces 10, 9 dixièmes de toute la création, ce sont des malaïka. Et parmi ces 9 dixièmes, 9 dixièmes, reprenez la portion, 9 dixièmes, c'est-à-dire 90%, c'est des anges qu'Allah a créés uniquement pour faire son tasbih, pour faire son adoration en permanence. Depuis qu'Allah les a créés jusqu'au Qiyam. Donc ces anges-là, ils vivent pour adorer Allah. Et ils voient la grandeur, la puissance, la force d'Allah. Et donc ils se disent, ils ne comprennent pas comment est-ce qu'un être humain peut, comment une créature peut désobéir à Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais ce que les anges ne savent pas, et ils ne comprenaient pas la sagesse, à la base même, de la création de Adam, alayhi salam. Quand Allah Ta'ala avait annoncé qu'il avait créé l'être humain, qu'il allait créer Adam alayhi salam, dit Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Comprenez pas, oh Allah, tu vas créer une race qui va créer le désordre sur la terre, qui va faire couler le sang. Alors que nous, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Alors que nous, en ce sens, nous passons toute notre existence à faire ton tasbihat, à faire ton adoration. Mais Allah, il savait ce qu'il ne savait pas. Ce qu'Allah aime chez une créature, c'est l'épreuve, al-ibtila. Et al-ibtila, c'est dans tout le sens du terme. Je suis malade, j'ai un problème de santé, j'ai un problème financier, j'ai un problème familial. C'est ce qu'on appelle un ibtila. Dans des cas où, est-ce que je vais écouter ma passion, ma réflexion, ou je m'en remets à Allah. Je sais que ça vient d'Allah et j'attends, je fais preuve de patience et j'attends la récompense de la part d'Allah. Je suis face à un péché, c'est ibtila également. Je suis face à quelqu'un, une personne ou quelque chose qui m'attire. J'ai une faiblesse. J'ai une faiblesse pour la boisson. Difficile. Je viens de m'arrêter ou j'essaie de m'arrêter. C'est dur quand je vois quelqu'un en train de boire. Mes amis, ils sont au bar, là, etc. Ça, c'est compliqué. J'ai envie d'y aller. Mon cœur, mes pulsions, mes shahawat, mon hawa, ce qui anime l'instinct humain, me dit « va ». Vers eux, va consommer. Si je suis plutôt habitué à d'autres choses, d'autres substances qui rendent, entre guillemets, heureux, c'est ma faiblesse. Si mon problème, c'est le zina, l'adultère, je vois une jolie fille, ça, c'est un ibtila. Ce sont là des épreuves. Où est l'épreuve? L'épreuve, c'est quoi? On se dit que, mais quelle est l'épreuve? C'est un bon plan ou autre chose, d'accord? Ben, soit je ne l'ai pas. Soit j'assure pas. Où est l'épreuve? Là, Wallah. L'épreuve n'est pas que tu réussisses ou non. L'épreuve, c'est que est-ce que tu vas suivre ton cœur ou tu vas suivre l'ordre d'Allah en respectant les interdits. Et la plus belle réussite d'une épreuve, c'est lorsque le péché est accessible et que toutes les conditions sont réunies pour qu'on l'accomplisse. Et que personne au monde, parmi les créatures, ne peut nous empêcher. Rien. Mais qu'à la fin, l'être humain se dit, le mu'min se dit, je ne peux pas faire ça parce qu'Allah est au-dessus de moi. Ça, c'est la plus belle des choses. Ça, c'est quelque chose qui, Allahu Akbar, fait plaisir à Allah Azza wa Jal. Vous connaissez l'histoire des personnes qui étaient dans une grotte connue, une pierre qui était tombée, ne pouvait plus sortir. Hadith très connu, hadith, on va dire, ça fait partie des hadiths de base. Et chaque personne s'est dit que il y a une seule façon pour obtenir l'aide d'Allah, c'est at-tawassul. At-tawassul, c'est faire intercession. Prendre quelqu'un comme intermédiaire. Prendre une action comme intermédiaire. Attention. Tawassul bis salihin, c'est shirk ça. On dit, oh Allah, par le barakat de telle personne, oh Allah, accorde-nous. Là, ça c'est shirk ça. Tawassul bil a'mal is saliha. Invoquer Allah par les bonnes actions. Ça veut dire quoi? Par exemple, chacun ici dans sa vie, qu'est-ce qu'il a fait de très mal Mais on sait également qu'est-ce qu'on a fait de très bien. Et ce qu'on a fait de très bien, mes chers frères, ce n'est pas forcément sur le plan quantitatif. Pas forcément que le Ramzan 2007, j'ai fait un tikaf, j'ai passé toute la nuit dans masjid. C'est très bien qu'Allah accepte. Mais peut-être que dans ta vie, tu as fait quelque chose de moins compliqué, de moins, j'allais dire, pénible, de moins contraignant, mais avec un tel ikhlas que c'était ça qu'Allah acceptait. Et avant, pour pas qu'on perde le fil, il dit que dans le paradis, lorsque les gens ils vont se rencontrer, ils vont discuter, il y aura un jour par semaine, les gens ils vont Yomul Liqa, un jour où les gens se rencontrent de tous les niveaux du paradis. Et là, ils vont se rappeler des jours de Ayyam Dunya, des jours qu'ils ont passés sur cette terre. Et il y en a un qui va dire, là, tu te souviens de ce monde, tu avais fait telle action? Il dit, oui, je me souviens. Et la personne va dire que tu sais, c'est cette action-là qu'Allah a acceptée. C'est grâce à ça que je suis là. Allah va mettre une science, un ilm, dans le cœur de l'être humain, que le jour des comptes, on reconnaît tous nos péchés, à un tel point que quelqu'un qui voit des bonnes actions qui ne lui appartiennent pas va dire, oh Allah, ça c'est pas à moi ça. Et Allah va dire que ça c'est les doigts que tu demandais qui n'ont pas été exaucés, ça c'est la compensation de l'au-delà. Bref, on ne va pas rentrer dans d'autres sujets. Dans le jour de Qiyama, l'être humain a une mémoire qui lui permet de retourner depuis qu'il est balir jusqu'à sa mort. Et il se souvient de tout. Parce que quand on passe dans l'autre monde, la notion de temps est différente. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوم أو بعض يوم. Dit combien de temps il est ressuscité. Dit mais combien de temps on a vécu dans ce dunya, dans ce monde. Personne n'a vécu 95 ans. Il dit un jour non. Il a dit non deux jours. Il a dit non peut-être trois jours. Il y a la notion de temps, elle est c'est fini. Quelqu'un a vécu 90 ans, mais pour l'au-delà c'est comme يوم un jour. Donc la notion de temps elle est différente. Ce qui fait que la personne, c'est peut-être par rapport à ça, que la personne reconnaît tout ce qu'il a pu accomplir comme péché, mais également comme bonne action. Et c'est là qu'on a dit qu'on allait perdre le fil. Allahu Akbar. Et donc, on va essayer de faire un petit raccourci. Le jour de Qiyama, dans ce dunya, la personne sait également, voilà, dans l'au-delà, on va retrouver, dans le Jannah, lorsque les gens vont converser entre eux, ils vont se dire que c'est par telle action qu'Allah m'a accepté. Allah a fait en sorte que l'être humain, il se souvienne et il sait exactement quand Allah l'a accepté, quand Allah lui a accordé le pardon. Ce n'est pas forcément le umrah qu'il a fait dans Ramadan, qu'il fait tawaf tous les soirs. C'est bien, c'est très bien. Mais ça peut être également quand j'étais lycéen, j'avais 18 ans. 18 ans, un peu limite lycéen. J'avais 17 ans, d'accord? Très jolie fille dans ma classe, en forme. Tous les atouts, offensifs, défensifs, d'accord, me propose. Et moi, j'étais beau. Je ne veux pas dire que je suis plus beau, hein. Et j'étais beau, encore plus beau, d'accord. Et elle me fait des avances. J'ai tout ce qu'il faut pour répondre à ces avances. Je dis non, moi, les Arabes, ils ne font pas affaire comme ça. C'est peut-être ça, mes chers frères. Wallahi l'azim. Ça peut être cette chose-là, cette action-là, qu'Allah a vu que l'homme était sincère, il l'a évité par amour et crainte d'Allah. C'est peut-être pour ça. C'est-à-dire, à 18 ans, Allah t'a accepté dans le Jannah. Vive à où est-ce que tu abayes ? Vive à où ? Vive à où jusqu'à 75 ans. Allah t'a mis dans le paradis à l'âge de 18 ans. Parce qu'à ce moment-là, tu étais dans une épreuve, choisie entre le bien et le mal, et tu étais jeune, avec les pulsions, les passions, tout t'amenait vers le péché. Tu as fait un virement 360 degrés par amour et par crainte d'Allah. C'est pour ça que parmi ces personnes dans la grotte, il y en a un qui a cité une action qu'il avait accomplie. Il a dit que j'étais éperdument amoureux de telle personne, une fille, hein, vous pouvez me préciser à notre époque. Je lui faisais des avances régulièrement. Elle m'a toujours refusé. Jusqu'à ce qu'un jour, il y avait période de crise, comme maintenant, période de famine, problème d'argent. Et là, cette personne m'a dit, écoute, Foulan, maintenant, je suis d'accord, mais à condition que tu me donnes une telle somme d'argent. Elle s'est, entre guillemets, prostituée, hein, sans que le terme soit mentionné dans le hadith. Parce que elle, c'était soit ça, soit elle mourait de faim. Personne n'était content. Depuis des années, il rêve de ce moment-là. Donc, il lui a donné la somme d'argent à cette dame. Et puis, le hadith précise bien que lorsque je me suis assis entre les jambes de cette femme, excusez-moi, mais je vous traduis littéralement, et que j'étais prêt à accomplir le haram, elle m'a juste dit, crains Allah, et ne fais rien avec le mécontentement d'Allah. Ne désobéis pas à Allah dans ce que tu vas faire. La personne dit que, elle a pensé à Allah.
elle a eu un retour de foi, de iman, et la personne n'a pas fait l'adultère. Alors que, pourquoi le hadith précise que quand je me suis assis entre ses jambes, ça veut dire qu'il était à quelques centimètres, dans les deux sens du terme, proche du zina. Qui l'empêche là? Qui? Personne. Qui le voit? Là, wallah, personne, à part de son créateur. Et la mazlouma, la personne qui est là, wallah musta'an. Et donc la personne s'est retenue, s'est abstenue alors qu'il en rêvait, c'était son obsession. Il s'est abstenu par amour et crainte d'Allah. Et il a dit que tu as raison. Je crains Allah, je ne ferai pas ça. Il a laissé la somme d'argent à cette personne pauvre. D'accord? Et la grotte, la pierre qui était, les pierres qui étaient près de l'entrée de la grotte, qui obstruaient la grotte, hein, ça s'est un peu écarté d'un tiers. C'est-à-dire que ça, c'était l'action qui a été acceptée par Allah. C'était l'action qu'Allah a le plus aimé dans toute sa vie. Donc, grandir de l'obéissance d'Allah, c'est avoir une vie tout à fait normale, avoir un métier, s'intégrer socialement, etc., etc., mais avoir la crainte d'Allah dans son cœur. Rester éloigné du haram et que rien ne nous empêche de faire les adorations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis, c'est Allah qui accepte. C'est Allah qui accepte, ça veut dire que tout est dans les mains d'Allah. Ça veut dire que Allah seul juge ce qu'il y a dans les cœurs. Allah connaît qui est sincère. Allah connaît qui a dû pratiquer avec des difficultés. Allah connaît la situation personnelle de chaque personne, chaque individu. Pour telle personne qui a grandi dans une famille de religieux, venir à la masjid, faire tout ça, c'est normal. Au contraire, on l'a encouragé. Telle personne qui a grandi dans une famille moins religieuse, plus moderne, moderne, ce n'est pas le terme adapté, mais une famille qui ne donnait pas autant d'importance à la religion, c'était dur, mais la personne est restée ferme, il a fait ses amal, le niveau est différent. J'ai connu un jeune, je ne sais plus où il est d'ailleurs, jeune converti, des études qui n'en finissent plus, il a dit qu'il s'était converti à l'islam, il était majeur bien sûr, sans que ses parents ne connaissent. Dionysien, pas besoin dans les pays arabes ou dans les endroits incroyables, là, wallah, Saint-Denis, s'était converti. Il m'a dit qu'il y avait deux difficultés. Première difficulté, en plus, il venait madrasa d'un endroit pour apprendre le hifz al-Qur'an. Il me disait que la limite, ça peut aller, sortir, parce qu'il avait 19, 20 ans, donc qu'il sorte, qu'il rentre, ça, c'est pas un problème. Il m'a dit, deux difficultés, c'était manger à table, par rapport au halal, et deuxième difficulté, c'était l'accomplissement des salats. Il m'a dit, ben ça, je ne pouvais pas faire dans ma chambre, parce que les parents, ils pouvaient entrer n'importe quand, et ils ne savaient pas que j'étais converti à l'islam. Il m'a dit que je m'enfermais dans la salle de bain pour faire la salat. Salle de bain, ce n'est pas toilette, hein, salle de bain. Il m'a dit qu'il n'avait pas d'autre solution, mais il ne ratait pas sa salat. Moi, quand j'écoute ça, Hayat al-Sahaba, ça c'est histoire des Sahaba, ça. C'est ajib, ça. À notre époque, 2000, ça date de 3 ans, hein, Allahu Akbar, 2010, un jeune de cet âge, qui était, mashallah, physiquement, alhamdulillah, beau, il n'y a rien à dire, obéissance d'Allah, ta'a. C'est peut-être comme ça que la personne a déjà obtenu son firdaus, son jannah, inshallah. Donc, ça c'était un petit rappel. On a vu, alhamdulillah, des shababs, des jeunes qui sont majoritaires dans l'assemblée. Hein, sachez que c'est la période de votre existence où Allah vous observe le plus. C'est la seule période de la vie où on peut obtenir l'ombre du trône d'Allah le jour des comptes. Parce que le prophète dit « Shab nasha'a fi ta'atillah » un jeune qui a grandi de l'obéissance d'Allah. C'est-à-dire qu'arrivé à un certain âge, même si je deviens pieux, je laisse ma barbe grandir puis blanchir et je reste dans le premier saf, je suis régulier dans la masjid, dhikrullah, lecture du Coran, je m'éloigne des péchés, etc., etc. On ne peut pas rattraper le temps perdu. On peut demander tawbah, oui. On peut demander tawbah pour les péchés, les erreurs. Ça, Allah seul le sait, qui est sincère dans son repentir. D'accord? Mais rattraper le temps perdu, non, ce n'est pas possible. Cette porte-là s'est fermée. Quand la jeunesse est passée, c'est une porte qui s'est fermée, c'est une porte qui ne s'ouvrira plus jamais. Donc, si on a encore 20, 25, 30, 35, certains disent jusqu'à 33, certains disent c'est jusqu'à 40. Après 40, il faut faire la queue. Si on a encore la possibilité de vivre quelques années dans la jeunesse, ben qu'on essaie de rattraper le temps perdu, profiter des quelques années qui nous restent pour rester ferme dans l'adoration d'Allah et de rester ferme face au péché, face aux tentations. Et le thème du jour, hein, qu'on va finir ce soir, Inch'Allah, ou alors la prochaine fois, C'est l'autre catégorie, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, un homme dont le cœur est attaché aux mosquées. On avait expliqué tout d'abord en introduction, ça veut dire quoi avoir le cœur attaché aux mosquées? À toutes les époques, il y a des musulmans qui viennent à la masjid, oui ou non? Mais est-ce que chaque musulman qui met le pied à la masjid, c'est un homme qui a le cœur attaché à la masjid? Là, wallah. Que au tout début, on avait vu que des personnes qui sont à la masjid et les cœurs y sont. Et quand ils sortent, c'est comme si que le cœur reste attaché à la masjid. C'est quand un mu'min entre dans la masjid, il se sent bien. Parce qu'il est dans un endroit où il n'y a pas de péché, où il y a la rahmat d'Allah qui descend. Alors que le munafiq, ben sans dire le terme hypocrite vraiment, mais il y a des gens quand ils viennent à la masjid, c'est comme si ils ne peuvent plus tenir. Il y a des gens que namaz finit, ils rentrent dans la place, besoin de sauver vite, vite. Sans. Bien sûr, on peut avoir husnudhan, bonne pensée, il va faire ses sunnats à la maison. Ça, c'est la meilleure des choses. Mais Allah musta'an, il y a des gens qui ne peuvent pas rester longtemps dans la masjid. On avait expliqué, on avait essayé de donner une définition, et elle était assez longue, assez complexe, on ne va pas revenir sur chaque point. On avait expliqué quels sont les signes dans une personne qui lui permettent de comprendre que peut-être que je fais partie des gens dont les cœurs sont attachés à la masjid. Hein? Est-ce que je peux espérer être parmi ces gens? On a vu que les conditions qu'il faut remplir pour être parmi les gens dont les cœurs sont attachés à la masjid et qui auront, inshallah, la place sous l'ombre du trône d'Allah, ce sont des conditions qui peuvent être appliquées, qui peuvent être atteintes toutes les époques. Ce n'est pas uniquement l'époque des sahaba, les tabi'in, là, wallah. Quelle que soit l'époque où on vit, on peut avoir une relation très spéciale, très sincère, une relation avec la masjid qui fait que, inshallah, on fera partie de ces gens. Et la première chose, la chose la plus importante qu'on a retenue, c'est les gens dont les cœurs sont attachés à la masjid ne rateraient pour rien au monde une prière accomplie en jama'at, en congrégation. Et ne rateraient pour rien au monde le premier rang, le takbir oula, comme c'était le cas de certaines personnes qui, pendant 40 années, n'ont jamais raté le takbir oula, c'est-à-dire le début de la salah, avec l'imam quand il commence le takbir Allahu Akbar. Et ce qu'on a vu la dernière fois, hein, c'était le 19 mars, c'était un petit chapitre concernant le Jum'a. On a vu que, malheureusement, beaucoup de gens, beaucoup de personnes parmi nous, ne donnons pas d'importance, je veux dire assez d'importance, ne donnons pas d'importance au jour du Jum'a. Et le fait de venir à la masjid Mubakkiran, très tôt. Et beaucoup de gens, ils viennent comme ils viennent en salat au dhahr, 5 minutes avant. Et je veux dire, c'est une grave erreur. C'est une grave erreur, ce n'est pas un péché, mais c'est un manquement par rapport à l'importance de ce jour. Et une personne dont le cœur est attaché à la masjid, c'est quelqu'un qui, pour lui, le Jum'a, c'est vraiment le jour de Eid. C'est vraiment le jour de fête où il va venir beaucoup plus tôt à la masjid. Et... Ah, hadith, oui, je cherchais un seul hadith pour rappeler, pas, il y en avait pas mal. Le prophète a dit taq'udul mala'ikatu, les anges restent près des portes de la masajid, ala abwab il masajid yawm al jum'a. Les anges se tiennent près des portes de la mosquée, c'est-à-dire toutes les mosquées du monde. Vous dites, mais quelle masjid? C'est Makkah Madina? Non, toutes les mosquées du monde. Même Montreuil? Oui, même Montreuil, pourquoi pas. Même le petit mosquée dans le petit village aux îles Comores là-bas? Oui. Vous n'avez pas vu combien de malaïkas Allah a créé? Allah n'est pas capable d'envoyer des malaïkas partout? Bien sûr que oui. Si le but est de récompenser les pieux serviteurs. Donc, les anges restent près des portes des masajid les vendredis. فَيَكْتُبُونَ الْأَوَّلُ وَالثَّانِ وَالثَّالِثِ. Ils écrivent les premiers arrivés. حَتَّى إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ رُفِعَتِ الصُّحُفُ. Il me semble qu'on avait oublié ce hadith la dernière fois. Et lorsque le imam arrive pour commencer la prêche, là, c'est fini. Rufi'atil suhuf, c'est là, c'est comme si les livrets sont élevés, sont retournés, on va dire, au ciel. Voilà, on pourrait dire que le livret est fermé. C'est-à-dire qu'ils écrivent, les anges écrivent, tout comme il y a des malaïkas qui écrivent les actions, bonnes et mauvaises, il y a des anges qui écrivent les noms de ceux qui viennent à la masjid le vendredi tôt. Mais quand le imam arrive, il commence sa prêche, là, pour les anges, c'est fini. Là, c'est l'obligation, basse. Ce n'est plus les vertus de celui qui vient à la masajid. Donc, est-ce qu'au moins une fois dans ma vie, j'ai fait l'effort de venir tôt à la masjid? Si le khutbah commence à 13h, c'est pas venir à 12h30, pas suffisant. Venir tôt, voyez à Makkah, Madina, 9h à Makkah, vous voulez avoir une place, dans les détails, vous avez une place surélevée dans la partie turque pour voir la Kaaba, venez à partir de 9h30. 9h30, les gens ils sont déjà là. 9h30, vous pouvez avoir une petite place pour pouvoir être à l'ombre et voir la... Bref, c'est-à-dire que Madina, subhanallah, il m'est déjà arrivé une fois, il dit, bon, on va aller un peu tôt ce matin pour être en face du mimbar, voir le imam. Parti très tôt, c'est-à-dire 10h, 10h, 4h30, impossible. L'ancienne partie est déjà remplie. Il faut aller, il y a juste la place au niveau des les parasols qui s'ouvrent au milieu basse. Quand les gens, ils savent, c'est vrai, vous allez dire que oui, mais là-bas, vendredi, ils ne travaillent pas. Certes, vrai. C'est une réalité, le vendredi, c'est comme le dimanche pour nous. Mais nous, le dimanche, ce qui fait bien masjid bonheur dimanche. Dimanche, c'est un jour de plaisir, de détente. Et ça, c'est un piège de shaitan, ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne se détend pas. Mais on explique, et ça, je ne sais pas à quel endroit. On dit ça, Bachabit, il a été riche, il a été écoute ça. De nos jours, ça, c'est le grand credo, ça, il faut se détendre. Il faut décompresser. Laisse ben jeune l'amuser. Laisse ben là, change un peu d'idée. C'est comme si que, il faut les laisser faire tout et n'importe quoi pour qu'ils se détendent. Ce qui voudrait dire que nos anciens, ils sont tous morts de stress. Parce qu'ils n'avaient pas la télé, ils n'avaient pas la Wii, ils n'avaient pas les sorties, ils n'avaient pas tout ça. Est-ce qu'ils sont tous morts dans des hôpitaux psychiatriques parce qu'ils n'avaient rien pour se détendre? Non, Wallah. Ça, c'est un faux problème, ça. On peut se détendre de mille et une façons, mais pas forcément dans des choses qui vous prennent la tête et le temps tout entier et qui vous hypnotisent. Moi, quand je vois encore des jeunes de 22 ans qui sont accro PlayStation, pour moi, c'est une catastrophe. Sha'abun nasha'a fi ta'atillah ou sha'abun nasha'a fi PlayStation ou autre chose. Là, Wallah. Pour moi, c'est une catastrophe. C'est les plus belles années de votre vie sur le plan spirituel. Moi, quand je vois un jeune qui me dit, ben, excusez-moi, et je crains qu'il écoute le programme, qu'il écoutera par audio, il me dit que dimanche, pour lui, c'est depuis le matin jusqu'au soir, c'est PlayStation, il est en train de jouer le dernier truc avec le pistolet et tuer les gens là. Pour moi, c'est la folie. Comment il appelle ? Il semble en aimer. C'est de la folie. Comment est-ce que quelqu'un peut passer 8 heures devant un écran ? Allahu Akbar. Ces 8 heures-là, il va aller pleurer le jour des comptes. Ces 8 heures-là, il va prendre ses cheveux, arracher s'il pouvait. Pleurer ces 8 heures-là, comment il aurait pu élever son grade et faire des amal, faire de bonnes choses ? Allahu Musta'an. Donc, est-ce que dans ma vie, j'ai donné au moins une fois l'importance du Jumu'ah ? Si c'est le cas, alhamdoulilah, on essaie d'être plus régulier et d'avancer. Essayer d'améliorer ses performances, pas dans le score qu'on fait dans les jeux, mais dans nos a'mal. Essayer d'améliorer notre rendement spirituel que je me fixe comme objectif que le vendredi, j'essaie de sortir plus tôt. Si je travaille dans tel endroit, j'essaie de voir avec mon patron qu'est-ce qu'il y a comme possibilité, quitte à rattraper les heures l'après-midi, sortir un peu plus tard, mais essayer de venir tôt à la salat al-Jum'a. Et moi, quand je vois des gens qui disent que je sors une heure, je rate Jum'a, quitte au travail. Quelqu'un qui dit qu'il finit à 13 heures et qu'il ne peut pas faire Jum'a, il doit quitter son travail. Il doit changer de boulot. Mais tu vas vivre toute ta vie sans faire Jum'a, sauf quand tu es en congé, c'est-à-dire quoi, 45 jours par an. Attendez, mais c'est de la folie ça. Une personne qui est son travail l'empêche de faire salat ou le Jum'a, alors que le Jum'a, c'est pas forcément dans les villes saintes, Makkah, Madina, le khutbah dure 40 minutes, mais on peut faire un Jum'a en 20 minutes, 10 minutes dans les petits quartiers. Moi, je connais près d'un lycée là-bas, Sunni, font Jum'a en 5 minutes. L'obligation est faite. Mais Allah musta'an. Donc, Inch'Allah, on fait le niya dès ce vendredi. Moi, en premier, dès ce vendredi, on essaie de venir tôt. Et quand on vient tôt, ce n'est pas qu'on s'assoit, on va tweeter, on va regarder notre statut Facebook. Non, on vient tôt, dhikrullah, salatu ala nabi, durud sharif, comme on dit Allahumma salli ala nabina Muhammad, on lit sur le kahf, on lit le Coran, on essaie de rester concentré et d'être le plus proche du premier saf. Pas non plus j'arrive tôt, je vais m'asseoir au fond là-bas parce qu'il est bien appuyé et qu'on a la clim, on a ventilateur. Et là, venir près du. Parce que le hadith dit que, hadith qu'on avait dit la dernière fois, la personne qui prend un bain, thumma bakkara, et il vient tôt, wa masha, wa lam yarkab, il vient à pied. Et non pas en voiture. Wadana min al-imam wastama'. Il s'approche du imam et il écoute la prêche. Il écoute ce que le imam dit. C'est ça les vertus du Jum'a. Encore le temps de continuer un peu pour aujourd'hui. 29 minutes, encore 5 minutes. 5 minutes, Inch'Allah. Mais en fait, on n'a pas vraiment avancé. La personne, autre signe distinctif, 5 minutes, Inch'Allah, autre signe distinctif d'une personne qui a le cœur attaché à la masjid, c'est quelqu'un qui aime faire une action. Pour lui, cette action-là, c'est la plus belle des choses. C'est le plus beau moment qu'il peut passer dans sa journée et qu'il attend. C'est quoi ? c'est attendre les namazes, enchaîner les namazes. Et ça, il y a peu de gens qui le font. Moi, en premier. Hein. On n'est pas là pour juger, hein. On est là pour faire un rappel. Et celui qui parle, c'est le premier qui est sensible à son rappel. Parce que c'est un constat d'échec que je ne le fais pas. Donc, on essaie de s'encourager mutuellement vers l'excellence, vers l'accomplissement de bonnes œuvres. Attendre une salah, c'est-à-dire la personne vient, salatul maghrib, et il reste à la masjid en maghrib et isha, dans l'obéissance, dans le dhikrullah, dans le ta'a, et en attendant salatul isha. Dans cet hadith, il dit que les sahaba, ils venaient à la masjid et ils attendaient. Il y a des fois où ils étaient fatigués, et il y en a qui commençaient à s'endormir et ils ronflaient. Et puis arrivaient à la salah, ils se réveillaient et faisaient la salah. Ça, c'est un masla aussi, c'est un dalil pour le fait que dormir n'annule pas le wuzu. C'est-à-dire, et puis chez les ahnaf, on dit que dormir, si on n'est pas allongé. Parce que le sahaba, il dormait en position assise. C'est comme quelqu'un qui fait doigt, il dort. D'accord ? Devant PSG, Barça qui dort. Excusez-moi, constat d'échec. Personne ne dormirait. Mais ça, dort soit dort pas. D'accord ? Mais parfois, on lit le Coran, il y a le sommeil, d'accord ? Donc, le sahaba, il dort. Il y en a qui ronflait, d'accord ? Et puis, il se réveillait immédiatement, il reprenait la salat. C'était une action appréciée des sahabas. Et ça fait partie des choses qui sont perdues, parce qu'on a trop de choses à faire. On a trop de choses à faire. On est tellement pris par le dunya. Tellement pris, Allah, on se tient par le dunya. Pour ça, le hadith, « Ala adullukum ». Et quand le prophète commence un hadith par « Ala adullukum », il dit que vous voulez que je vous montre. C'est-à-dire qu'il va dire quelque chose d'énorme là. Là, ce qu'il va dire, ça va être un truc terrible. Que là, il faut être malin et écouter pour le mettre en pratique. Allah adullukum, voulez-vous que je vous indique, tout en sachant que tous les sahabas vont dire oui au prophète d'Allah. C'est-à-dire qu'il va dire quelque chose qui renferme un grand secret, une grande récompense. Allah adullukum. Ala ma yukaffirullahu bihi min al-khataya. Est-ce que vous voulez que je vous montre une action par laquelle Allah pardonne vos péchés, par laquelle Allah fait ra de tous vos péchés. Wa yazidu fil hasanat, et Allah augmente vos hasanat. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Diminution, disparition des péchés et augmentation des bonnes actions. C'est pas ça la plus belle chose qui peut nous arriver? C'est comme si que, toute comparaison, hein, on a des dettes, on a notre compte en banque est débitaire. Votre banquier vous dit, écoutez, vous devez 3000 euros à la banque. Enfin, on ne doit pas à la banque normalement, mais on est moins 3000, d'accord? Vous dites que, écoutez, je ramène ça, d'accord? On enlève ça. Et au lieu d'avoir moins 3000, je vous donne plus 15 000. Ça me dit, ben, c'est extraordinaire ça. Allah Azza wa Jal promet qu'il enlève les péchés et qu'il augmente les hasanat, les bonnes actions. Alors, qu'est-ce que le prophète va dire? Ça va être trop dur pour moi ça. On peut se dire que oui, mais une telle action, c'est vraiment quelque chose de compliqué, de complexe. Est-ce qu'il va dire qu'une personne rentre chez elle, prend tout ce qu'elle possède et va donner dans le chemin d'Allah? Ou que quelqu'un fasse le niya, il va habiter dans la masjid, il se sépare de sa femme, de ses enfants, il prend ses vêtements et un peu de nourriture, il reste dans la masjid jusqu'à 95 ans, jusqu'à ce qu'il meure, on l'enterre là? Non, on n'enterre pas dans la masjid, hein, jusqu'à qu'on l'enterre? Non, ce n'est pas ces choses-là. Le prophète va dire une action que tout le monde peut faire. Un commerçant peut faire, un commerçant, je ne sais pas, quel que soit le boulot, le travail qu'on fait, un artisan, un agriculteur, un homme marié, 2, 3, 4, 5, 6 enfants avec une vie familiale, tout le monde peut faire. Le prophète me dit, Isbarul wudu ala al-makruhad, faire le wudu. Et d'autant plus, faire le wudu parfois quand il y a un peu de difficulté par rapport au froid ou autre chose. Wa kathratul khata ila al-masajid, marcher, faire beaucoup de pas pour venir à la masjid. Attendre les prières après les prières, c'est-à-dire enchaîner les salats. Et le prophète me dit que sachez que tant que vous êtes dans la masjid, vous attendez la salat, Allah Azza wa Jal vous considère comme étant en train d'accomplir la salat. Dès que vous, il y a des hasanat, même si la personne est fatiguée, reste assise, elle ne fait rien. Allah inscrit cette personne comme étant dans la salat. Et le hadith dit également وَيُكْتَبُ مِنَ الْمُصَلِّينَ مِنْ حِينَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ. Regardez comment Allah est généreux dans la rétribution pour celui qui vient à la masjid avec sincérité. Depuis le moment où il quitte sa maison, il va à la masjid jusqu'à ce qu'il retourne. Hein, depuis qu'il a quitté sa maison, Allah lui l'inscrit, demande aux anges de l'inscrire parmi les gens qui sont en train d'accomplir la salat. Donc on va s'arrêter là aujourd'hui, Inch'Allah. Le point nouveau qu'on a vu aujourd'hui, c'est l'action qu'on se fixe comme objectif. Déjà la semaine dernière, on s'était fixé comme objectif de venir tôt Jumu'ah. Je ne sais pas si quelqu'un a pu le faire. Inch'Allah, si ce n'est pas le cas, ce vendredi. Et continue avec l'istiqama. Deuxième objectif, donc, cette semaine, c'est Inch'Allah, on essaie, soit samedi, soit dimanche, on essaie d'enchaîner deux salats. Et ça, ça fait partie des actions qui augmentent les hasanat et qui effacent les péchés. C'est vraiment quelqu'un, vous savez le hadith de base qu'on cite tout le temps, la personne qui vient vers Allah, hein, qui fait un pas vers Allah, Allah fait deux pas vers lui, etc. Le hadith très connu, il y a que si Allah voit qu'on fait un effort, Allah va nous accepter. Et quel plus bel effort que de celui qui fait un effort en respectant les recommandations du prophète. Une action qui a été faite comme le prophète l'a recommandé. Donc celui qui va faire ça, ben, il montre entre guillemets à Allah qu'il est sincère et qu'il veut obtenir le contentement d'Allah. Ça fait partie de ces actions qui distinguent une personne. L'accomplissement des cinq salats, tous les musulmans le font. Le ramadan, tous les musulmans le font. Le hajj, une fois de la vie, hein, les gens ils le font. Mais faire des actions qui vous distinguent, ça c'est quelque chose de spécial qui donnera à la personne quelque chose de vraiment spécifique. Et on avait cité parmi les... Si vraiment quelqu'un il veut vivre une vie d'homme pieux, hein, ça commence très tôt le matin avec le tahajjud. Il essaie, après le tahajjud, il vient à la masjid, à pied, en état de wudu. Il reste dans la masjid jusqu'au shuruq, en faisant le dhikrullah, lecture du Coran, il fait ses salats de shuruq, de ishraq. Et puis la personne, il fait son travail, il obtient sa subsistance halal. Il fait en sorte de jeûner trois jours par mois. Il fait en sorte de jeûner tous les lundis, tous les jeudis de la semaine. Ça, c'est des actions qui distinguent une personne. Et il fait en sorte tous les jours de donner une sadaqa, un petit peu, 2, 3 euros, ce qu'il peut, mais régulièrement. Meilleur sadaqa, donner à manger à quelqu'un. Ce soir, on sait que telle, madame a fait tel repas, on dit, avant de servir, tiens un petit peu, mets dans une banquette, et on va voir la personne. Pas forcément que la personne soit musulmane, même si c'est un SDF, il n'est pas musulman ou autre, on donne à manger à un être humain. Ça, c'est une action qui plaît à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et l'action qu'on a vue aujourd'hui, donc, a essayé d'enchaîner, de rester à la masjid en deux salats dans le but d'obtenir ses récompenses. Qu'Allah nous accepte. Qu'Allah nous accepte. C'est la seule chose qu'on peut dire, hein, parce qu'on est tellement loin, loin, loin de l'objectif. Quand on voit la vie des sahabas, les tabi'in, comment ils étaient réguliers dans leur salat, ça fait peur. Ça fait vraiment peur par rapport à notre situation. On citera une anecdote qu'on voulait citer ce soir, mais on n'a pas eu le temps. Parce qu'il y a des histoires des sahabas et des tabi'in, des contemporains. Et l'histoire de cet homme, ça c'est choquant. Cheikh al-Islam Sulaiman ibn Tarkhan al-Taymi, rahimallah, il dit, Ma'mar, quelqu'un de connu, il dit que j'ai fait la salat à côté de Cheikh al-Islam, donc il s'appelait Sulaiman al-Taymi. Cheikh al-Islam, c'est un titre, hein, c'était un des éminents savants à son époque, d'accord. Il dit, après la prière de Isha, j'ai fait les salats à côté de lui. Et je l'ai entendu, lire Tabarakalladhi biyadihi al-mulk, falamma ata ala hadhihi al-aya. Et lorsqu'il a lu le verset, falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhu alladhina kafaru. Puis quand ils virent le châtiment de près, les visages de ceux qui ont mécru se sont affligés. Il y a la situation des gens qui ont désobéi à Allah, le jour des comptes, lorsqu'ils voient le hada, ils voient l'enfer, ils voient le jahannam, ils voient la situation de l'au-delà, là leur visage change, là ils comprennent, d'accord. Et il dit que j'étais à côté de lui, il répétait, falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhu alladhina kafaru, ja'ala yuraddiduha. Il répétait, 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 jusqu'à ce que j'ai quitté la masjid, je l'entendais encore sa voix, fa kharajtu wa taraktu. Ça c'était après Isha. Il dit que le lendemain, Mu'mar c'est le muadhin de cette masjid, donc, il dit, je suis revenu le lendemain, li adhan al-fajri, fa nadhartu, fa idha huwa fi maqamihi. Il dit, je suis entré dans la masjid, il était de là. Au même endroit où il était hier soir, même position, je me suis approché de lui, qu'est-ce qu'il disait? Il répétait le verset avec crainte, comment sera ma situation si le jour des comptes, je fais partie de ces gens qui constatent le châtiment d'Allah. Quand on voit l'état de ces, subhanallah, de ces gens pieux, de ces salihin, nous voyons vraiment que nous sommes, Allah, des années-lumière. Même si on a l'impression d'être bien, d'être dans le droit chemin, d'être comme il faut, on se rend compte qu'on est vraiment loin et on a besoin de la pitié d'Allah, de l'acceptation d'Allah. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla de nous pardonner, pas de nos erreurs, nos faiblesses, nos manquements, d'accepter nos a'mal, nos ibadat, malgré leur faiblesse, le manque de qualité, et qu'Allah ait pitié de nous. Puis le rappel qu'on fait à chaque fois qu'il y a un match important, ce soir il y aura le génocide, le match. PSG Barça, si vraiment quelqu'un veut regarder. Hein, on est passé à 2 heures de décalage, là. Donc ça va, je ne vais pas vous dire ça qui est là, ce n'est pas mon travail. D'accord? Si quelqu'un vraiment il va regarder, mais qu'en aucun cas ce plaisir, cette distraction-là ne l'empêche de. Non, de venir. C'était le verbe que je voulais. À la masjid. Comme on l'avait dit vendredi, je ne sais pas quoi il y avait l'autre fois, il y avait France-Espagne. Donc, heureusement, vous n'avez rien raté. D'accord? Et on a dit que il ne faut pas que dire que bon, le lever du soleil, c'est que là en ce moment, on va dire 6h25, donc je me lève à 6h20, je fais mon fajr, et puis je regarde, là, wallah. Parce que je regarde les matchs hier soir jusqu'à 1h, je me dis, là, wallah. C'est-à-dire que même si quelqu'un par faiblesse, il dit qu'il a besoin de ça, ok, il a besoin de ça, d'accord. Mais en aucun cas, à cause de ça, il doit rater sa salat en congrégation. Abadan, jamais de la vie. Autrement, c'est. Et que, qu'il le fasse volontairement, je veux dire. Autrement, c'est vraiment montrer à Allah que ça, ça passe avant. C'est que j'ai le choix entre le dunya et le din, entre plaisir immédiat et le recherche de contentement d'Allah, et je choisis le plaisir immédiat et je mets de côté, je mets derrière moi le contentement d'Allah. Ça peut pas être, il ne peut pas y avoir pire situation. Comme tout à l'heure, on avait dit que la meilleure des choses, c'est quand on a le choix et que je choisis l'obéissance d'Allah, mais là, qu'on choisit le plaisir et qu'on met de côté l'obéissance d'Allah, ça, c'est vraiment la pire des choses et Allah peut prendre des décisions contre nous, qu'Allah nous protège. Qu'Allah nous accepte. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا.